Radio Okapi.
Oh, Okapi, Pierrot et la Mélie à la présentation.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Amélioration des conditions sécuritaires à Duguani-Touri depuis plus de mois. Des centaines de familles déplacées internes de réfugiés congolais retournent dans leur village d'origine le long du lac Albert. Le chef coutumier sollicite l'intervention du gouvernement et des humanitaires pour aider ces personnes qui n'ont pas d'abri. Plus de 100 femmes et membres des associations féminines venues de l'ensemble de la province du Congo central sont depuis hier lundi dans un atelier de renforcement des capacités sur la transformation des produits agricoles. Une formation qui leur permettra une auto-prise en charge. Chief Chipamba Ngambamalu, directeur général intérimaire des Transco, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il parle de la situation de cette entreprise de l'État tout en dénonçant par la même occasion le sabotage des 161 bus de l'ancien lot découvert abandonné dans la commune de Lancelé, ici à Kinshasa. Chief Chipamba est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Il est 19h01 à Bounia et nous disons qu'à Nitouri, des centaines de familles, des déplacés, des internes et des réfugiés congolais retournent dans leur village d'origine le long du lac Albert dans les territoires des Djougou. Selon la société civile de cette entité, ce mouvement en retour est dû essentiellement à la calmie observée depuis plus d'un mois dans cette zone. Cependant, le chef coutumier indique que la plupart de ces retournés n'ont pas d'abri car leurs maisons ont été incendiées par les groupes armés. Il sollicite intervention du gouvernement et des humanitaires. Isaac Remoyope.
Ces mouvements retours s'observent dans une dizaine de localités à la Kistre en territoire de Djougou, Café, Gbi, Djo, Torges, Mouvaramu et Muganga. Ces villages étaient la cible d'attaques à répétition des miliciens de la Codeco depuis des ans, ce qui a entraîné les déplacements massifs de la population. Certains ont trouvé refuge à Tchomia et à Kassigny, à 60 km aussi de Bounia. D'autres ont traversé la frontière pour s'installer dans des camps de réfugiés en Ouganda. Selon la société civile locale, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans la région. Les tueries à grande échelle ont diminué, sauf quelques cas isolés, ce qui encourage les retours de ces personnes déplacées, ajoute-t-elle. De nombreux parents retournent dans leur village pour scolariser leurs enfants, dont certains avaient déjà passé plus de 3 ans sans aller à l'école. Cette structure citoyenne indique que les conditions de vie dans leur lieu de refuge constituent également l'une des raisons qui favorisent ces mouvements retours. Les autorités coutumières locales demandent au gouvernement et aux humanitaires de venir en aide à ces retournés pour leur insertion communautaire. Certains passent la nuit à la Belle Étoile car leurs maisons ont été incendiées par des hommes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, au moins 74 ex-combattants démobilisés et autres jeunes à risque sont aujourd'hui au deuxième mois de leur formation en divers métiers à Don Bosco Ngangi, au nord de Goma. C'est dans le cadre du projet de réduction des violences communautaires financé par la section des démobilisations de la MONUSCO. Le projet a été visité hier lundi par le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diagne. Bernard Nyangi pour les détails.
Ces jeunes filles et garçons proviennent des localités de Kichanga, Mweso, Kashuga et Kalembe en territoire de Masisi. Selon leur choix, ils sont formés en maçonnerie, en coupe et couture et coiffure esthétique, entre autres. Après plus d'un mois de cette formation, qui devrait durer 3 mois, ces jeunes se disent actuellement fiers d'avoir opté pour la vie civile en vue de contribuer à la paix et au développement du pays, comme en témoigne ici cette bénéficiaire.
Merci MONUSCO et Don Bosco de nous voir démobiliser nos frères pour qu'il y ait la paix.
En plus de les encourager, le chef adjoint de la MONUSCO, en charge des opérations et de la protection des civils, demande à ces jeunes de sensibiliser leurs pères qui sont encore en brousse. Kassim Diagne.
Ce que vous avez fait est un geste extrêmement important de dire adieu les armes, adieu la violence et maintenant retrouvons la paix. Je vous exhorte donc à encourager d'autres personnes qui sont encore dans les bandes armées. Dites-leur que nous sommes prêts à les accueillir parce que sans la paix, il n'y a pas de développement.
Rappelons que parmi ces jeunes, on peut identifier ceux qui sont venus des groupes armés comme APCLS de Janvier Kalaheri et un de ces rénovés de Guidon, entre autres. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, lancement hier lundi 27 septembre à Kalima du projet dénommé Projet des préparations aux désastres et réponses multisectorielles aux besoins humanitaires urgents de ménages les plus vulnérables victimes des conflits armés ou d'événements climatiques extrêmes. Une initiative des Caritas Kasongo en collaboration avec l'Agence catholique d'Angleterre et d'Outre-mer pour le développement CAFOD. Ce projet de 24 mois a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations affectées par les désastres d'origine humaine ou naturelle au Sud Kivu et au Maniema. Il est financé par la Commission européenne en charge de l'aide humanitaire. Plus de précisions avec Dioko Kazimire, chef des projets Caritas Kasongo. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Pour la partie du Maniema, il y a trois territoires qui sont concernés pour ce projet. C'est les territoires de Pangi, Kabambare et les territoires de Fizi. Et pour ce qui est du territoire de Pangi, ce projet s'étend dans les groupements d'Insangue et les groupements Ulimba. Et dans les territoires de Kabambare, c'est le groupement Kanyengele qui est pris en compte. Ce projet se donne l'objectif de renforcer les capacités des communautés, des zones ciblées pour aider à identifier les désastres auxquels elles sont exposés, à formuler des plans de contingence, à alerter et à faire face aux menaces multiples qu'elles sont confrontées. Et c'est un projet qui s'assigne trois résultats. La préparation au désastre, les réponses rapides et le relèvement précoce. La préparation au désastre n'est outre que l'ensemble des mesures prises par le gouvernement, des organisations, des communautés ou des individus, afin d'améliorer la réaction à une catastrophe naturelle d'origine naturelle ou humaine, ainsi que la gestion des suites immédiates.
Nous poursuivons ce journal au Congo central où plus de 100 femmes membres des associations féminines affiliées au réseau national des associations des femmes en RDC venues de l'ensemble de la province sont depuis hier lundi en formation à Maounzi Mansende, un village du secteur Kivulu dans le territoire des Mbanzangungu. Un atelier de renforcement des capacités sur la transformation des produits agricoles qui est organisé à leur intention par l'Institut international d'agriculture tropicale grâce au financement de l'ONU Femmes et du gouvernement suédois. D'après l'administrateur du territoire des Mbanzangungu qui a procédé au lancement des travaux de cet atelier. Cette formation permettra une auto-prise en charge des femmes et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nana Plus Richement Beau pour le reportage.
Pendant 6 jours, ces femmes vont apprendre comment transformer les produits agricoles locaux, principalement les maniocs et les soja. Dans son mode de circonstance, l'administrateur du territoire de Mbanzangungu a invité toutes ces femmes à prendre au sérieux les acquis de cette formation, car d'après lui, leur autonomisation et leur promotion en dépendent.
Je vous rappelle toutes à prendre au sérieux cette formation qui abordera les aspects de la transformation des produits locaux ainsi que l'entrepreneuriat.
Plusieurs secteurs du territoire de Mbanzangungu, y compris celui de Kivulu où se tient cette formation, sont enclavés. Luc Makiadi a également demandé aux apprenants à être les interprètes fidèles des habitants de leur milieu en soumettant aux partenaires les problèmes qui minent ces contrées, dont celui de l'enclavement.
Je vous exhorte donc à l'attention et aux retenues en ce qui concerne certaines conditions que vous trouverez non conformes en ce milieu. Juste pour vous autres, une occasion de voir les réalités de ce milieu rural. Difficulté d'accès à l'eau potable, au réseau téléphonique, des infrastructures routières, soyez nos interprètes. Je pense ici aux fruits qui pourrissent.
Toujours selon lui, à la fin de cette formation, l'ONU Femmes va doter chaque milieu d'où proviennent ces femmes des machines pour permettre à ce que chacune des apprenants aide d'autres femmes à acquérir les mêmes connaissances. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Lance-Mayer, lundi 27 septembre, à Bukavu du projet pilote d'économie circulaire l'or dans nos poubelles, un projet de transformation des déchets plastiques en opportunités d'emploi. Ce lancement officiel a été fait par le ministre de l'Entrepreneuriat et Petites et Moyennes Entreprises en présence de plusieurs entrepreneurs de Bukavu. Ce projet est instauré par l'entreprise Kivutech et financé par le PNUD à plus de 19 000 $ américains pour une durée de 4 mois. Rachel Kessema pour le reportage.
La collecte des déchets, le tri, la transformation et le pavage, tel est le processus du projet L'or dans nos poubelles. Projet qui sera bientôt exécuté dans la ville de Bukavu. Une initiative encouragée par le ministre de l'Entrepreneuriat et PME qui, après ses échanges avec les entrepreneurs de Bukavu, promet l'accompagnement du gouvernement à ces derniers. Eustache Mouandi.
Je suis d'autant plus heureux ce jour que je sois passé ici, lancer le projet Or dans nos poubelles, ce projet qui voudrait transformer les déchets plastiques en pavés pour créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse. Et le gouvernement de la République accompagne toutes ces actions pour la création des emplois.
Les entrepreneurs de Bukavu satisfaits de la visite du ministre qui, selon eux, leur donne un coup de pouce. Nicole Menemene.
Chaque fois qu'on a des autorités qui viennent visiter, nous sommes ravis parce qu'on s'est dit, et avec ce genre d'activité, on est encouragé, on est plus motivé à produire et à contribuer vraiment à l'économie de notre pays.
Signalons que l'industrie de transformation du dit projet se situe à Kabanda, groupement de Momosho dans le territoire de Kabaré. Ce projet de 4 mois est financé par le PNUD à hauteur de 19 100 $. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Nous parlons santé dans ce journal. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumba-Nkoulou, a réceptionné ce lundi 27 septembre 2021 un lot important de 25 380 doses du vaccin Pfizer dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en République démocratique du Congo. Il s'agit du deuxième don du gouvernement américain à la RDC à travers le mécanisme COVAX. Jean-Pierre Lalikoko pour les détails.
La cérémonie de réception de ces lots de vaccins anti-Covid s'est déroulée au centre de stockage de vaccins du programme élargi de vaccination dans la commune urbano-rurale de Lancélé à Kinshasa. La vice-ministre a réceptionné des mains de l'ambassadeur des États-Unis en RDC et au nom du gouvernement la première allocation de 250 380 doses de vaccins Pfizer sur un total de 4 946 770 doses attendues. Ces doses viennent s'ajouter aux différents types de vaccins reçus précédemment dans le pays. Madame Véronique Kilumba-Nkoulou a précisé que les vaccins reçus des États-Unis vont être distribués aux formations sanitaires pour être administrés aux personnes âgées de 18 ans et plus, et ceci dans les 15 provinces prioritaires où sévit la pandémie. Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne le sera, a souligné la vice-ministre avant d'inviter la population à se faire vacciner et à observer les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Les représentants pays de l'USAID, de l'OMS et de l'UNICEF, la directrice du PEV ainsi que les partenaires techniques et financiers du secteur ont pris part à cette cérémonie. Dès la commune de Lancélé, Jean-Pierre Elalikoko, Lokilolinga, Radio Capi.
Nous nous rendons dans la province de la Tchopo où la population du territoire de Yaouma, située à plus de 350 km de Kisangani en aval du fleuve, tire la sonnette d'alarme au sujet de la maladie des monkeypox qui sévit actuellement dans cette entité. Selon Alphani Lolengo, un enseignant de Kisangani en vacances dans son village à Yaouma, au moins 6 personnes en sont déjà décédées au cours de ce mois de septembre. Les infirmiers étant en grève, il est difficile pour les personnes affectées d'être prises en charge. Il lance alors un SOS aux autorités sanitaires afin de trouver une solution urgente par rapport à cette maladie. Il est joint au téléphone par Jacques Moukonkolé.
Dans des villages environnants, il y a plus de 6 cas de mortalité dans ma présence à Also. Il y a les enfants qui sont déjà morts, mais il y a des adultes qui sont en train de souffrir de la maladie, déformés même. Après les enquêtes, on avait constaté cette maladie, on avait fait les rapports, mais vu que les infirmiers sont en grève, on n'a pas compte de faire ça officiellement.
Terminons cette page santé avec la persistance de la grève des professionnels de santé non médecins décrétée depuis le 2 août 2021 à RDC et à Bandundouville, le chef-lieu de la province du Kwilu. Le syndicat de cadre du secteur de la santé et l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo attribuent les conséquences fâcheuses résultant de cette grève aux autorités du pays. Dans une interview accordée à Radio Capi ce mardi 28 septembre, ces deux structures déplorent ce qu'ils appellent mauvaise volonté politique de ces dirigeants qui restent insensibles et indifférents face à ces dégâts. Ils en appellent à la bonne volonté politique afin que la grève soit levée pour les biens de la population. C'est l'administrateur général Séverin Mbunga du 5 ans qui l'a dit au micro d'Irène Boma.
Ce mouvement de grève de professionnels de santé non médecins à travers le pays qui continue jusqu'à ce jour suite à la mauvaise volonté politique de nos dirigeants dans ce pays. Je ne sais pas si les autorités tant nationales que provinciales arrivent à évaluer les dégâts ou dommages collatéraux causés par cette grève de professionnels de santé non médecins. Parmi ces dégâts, nous pouvons citer le nombre de décès maternels et infantiles enregistrés depuis le début de ce mouvement de grève. La proportion des enfants incomplètement vaccinés depuis le mois de juin 2021 à nos jours. Le nombre nombre de femmes insuffisamment vaccinées contre le tétanos, la proportion des indicateurs clés de soins de santé primaire. Personne ne se glorifie à compter le nombre de décès maternels ou infantiles dus principalement à cette grève. Je pense que la grève ici venait de causer beaucoup de tort au pays. On devrait mettre fin à ce mouvement de grève s'il y a une bonne volonté politique.
Actualité internationale.
L'opposant russe emprisonné Alexei Navalny et plusieurs de ses proches et collaborateurs sont visés par de nouvelles accusations d'extrémisme, passibles de lourdes peines de prison, ont annoncé les enquêteurs mardi 28 septembre, après deux mois de répression de son mouvement, relate l'AFP. La Commission européenne a appelé mardi 28 septembre le constructeur automobile Volkswagen à indemniser les clients lésés par le scandale de moteurs diesel truqués dans toute l'Union européenne et pas seulement en Allemagne, sans jouer la montre en épuisant toutes les voies des recours judiciaires.
L'invité.
Ce soir, nous recevons Chipambang Mbamalu, directeur général intérimaire de la Société des Transports du Congo, Transco. Avec lui, nous allons parler de la situation de cette entreprise de l'État congolais depuis son arrivée à sa tête. Et en quoi le remplaçant, celui qui l'a remplacé bien sûr, Blackson Bongi, la Société Transco n'est pas loin d'une entreprise en difficulté. Il dénonce par la même occasion le sabotage des 161 bus dans l'ancien lot découvert abandonné dans la commune de Lancelé. Il répond aux questions des Célestine Massoudi Ntamboui.
Monsieur Tif Tipamba, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes directeur général ad intérim de l'entreprise Transco. Comment se présente l'état de santé de l'entreprise depuis votre arrivée à sa tête?
Non, l'état de santé de l'entreprise Transco n'est pas loin d'une entreprise en difficulté. C'est pour autant dire qu'il a beaucoup de soucis. Nous avons hérité de cette entreprise sans un secrétariat de direction générale, sans imprimante, sans ordinateur. Nous avons hérité cette entreprise avec 177 stagiaires professionnels qui ont traîné depuis 4 ans. Avec une catégorie de travailleurs appelés des confinés, des agents sous action disciplinaire non clôturée, ça fait plus d'une année. Nous l'avons hérité également avec une catégorie de chauffeurs appelés journaliers et temporaires, alors que Transco a un personnel de 2552. Et dans les 2552 là, on ne s'est pas trouvé le nombre de chauffeurs suffisant pour rencontrer ce problème là. Donc on a dû faire recours aux temporaires et journaliers. Ce sont autant de mots qui rongent Transco sur lesquels nous nous attelons pour essayer de relever le niveau.
Monsieur le directeur, actuellement, quel est le nombre exact des bus en circulation?
On a près de 200 bus en circulation, on s'est compris, les anciens bus qu'on a ressuscités. Il y a près de 200 bus, pas parce qu'il n'y en a pas assez, mais c'est plutôt parce que les routes également nous font défaut. Donc si je décidais de larguer tous mes bus en circulation, rassurez-vous, on ne pourra pas circuler, la population ne pourra pas se mouvoir. Donc on a besoin qu'il y ait des routes, que la police de circulation routière soit très efficace pour décanter, dégager les voies et décongestionner, voilà quoi.
Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de bus qui sont hors service, faute de dépannage. Est-ce qu'il y a une solution déjà trouvée pour ça?
Non, de bus hors service, ce sont de vieux bus, notamment le 161 qu'on a trouvé là-bas, dans le lot duquel nous avons ressuscité le 43, comme je disais tantôt. Par rapport au bus Volvo, rassurez-vous, jusqu'à 3 ans, nous sommes suivis et entretenus par le concessionnaire qui nous a vendu le véhicule. On vient de dédouaner 16 containers, il en reste 4 qui pourront atteindre Kinshasa, je crois, la semaine prochaine. Sur ce point-là, il n'y a pas trop de crainte. Mais la grande question, c'est celle de savoir qu'adviendrait-il après les 3 années de contrat, alors que nos recettes ne nous permettent pas de rencontrer le budget d'exploitation.
Parlons, 161 bus trouvés encellés, des bus cannibalisés, sabotés. Est-ce que les auteurs de ce sabotage sont déjà répertoriés, identifiés et quelle est la situation en fait?
En fait, tout ne commence pas par des arrestations, n'est-ce pas? Les responsabilités doivent être établies, les enquêtes sont en cours. Donc, à l'issue des enquêtes, qu'on pourra savoir qu'en est-il. Mais ici, de préciser que c'est quand même bizarre parce que lors de la remise des reprises, on n'avait pas fait état de ces bus-là. Le ministre, lors de sa prise de fonction, on lui a jamais rapporté qu'il y avait ce lot de bus de l'autre côté. Il a fallu que nous descendions pour nous en rendre compte. Donc voilà pourquoi on ne s'est pas trop spéculé là-dessus. Il semble qu'il y a des justifications, mais un constat a été fait tel que les pannes pour lesquelles le bus avait été amené de l'autre côté ne sont plus les mêmes. Les pannes se sont prononcées davantage du fait de la négligence de la garde. Donc voilà un peu, donc les responsabilités seront établies par la commission d'enquête. À mon niveau, je n'ai fait que constater et appeler, et c'est lui à qui revient le pouvoir de poser des actes et d'instruire.
Y a-t-il une possibilité pour que ces bus reviennent à la circulation?
J'en ai ressuscité 43 ici. Si je puis le faire ici, sûrement que ça demandera plus de moyens de l'autre côté parce que les pannes sont devenues très aggravées. Mais ici sur place, dans la parcelle, avec la direction technique, on a pu remettre en marche 43 bus et bien d'autres jeeps de personnel.
Certains observateurs, monsieur le DG, disent que les prix fixés passée ne reflète pas la réalité, c'est-à-dire que les prix est trop bas par rapport à vos charges. Comment vous vous organisez à l'interne pour faire face à tout ça?
C'est compliqué, voilà pourquoi nous demandons l'aide de l'État. En 2013, quand on créait Transco, le dollar était à 970 francs congolais, 1 dollar, le prix du billet était à 500. Aujourd'hui, le dollar est à 2000 quelque chose de francs congolais, le prix du billet reste à 500. Donc la valeur de 500 francs a chuté de 4 fois, ce qui n'est pas normal. Je voudrais bien que ceux-là qui ont la capacité d'organiser des marches pour revendiquer, qu'ils revendiquent également que société, et qu'on revoie le prix à la hausse du billet de la société Transco pour permettre à ce que la société survive très longtemps.
Il y a un grand nombre de vos agents qui ont grévé dernièrement. Ils ont suspendu leur mouvement grâce à une promesse de paiement progressif. Où en êtes-vous?
C'est le dialogue social qui est le maître mot quand on gère pareille situation. Dans une société où le syndicat est désavoué, c'est le dialogue social. Je parlais avec eux, on a diagnostiqué la situation de l'entreprise avec eux. Je fais intervenir la banque, j'ai négocié avec la banque qui est en train de nous accompagner. Voilà pourquoi vous le voyez, je viens aller reprendre le travail. Et j'insiste une fois de plus, vous pouvez compter le nombre de fois que je suis revenu dessus durant cette interview. Et c'est pour demander au pouvoir public d'intervenir, de nous prêter main forte pour que le démon qui ont réclamé les aïeux des Transco ne revienne pas à charge.
Pour finir, Monsieur le Directeur Général, le Dr Muyembe a annoncé une probable quatrième vague de Covid-19 d'ici octobre ou novembre. Nous connaissons que dans les bus Transco, les gens se bousculent souvent à l'interne. Comment vous vous êtes organisé pour affronter cela?
Que le service de l'ordre nous aide, parce que moi, à mon niveau, j'ai des contrôleurs qui sont là pour ranger les gens et les introduire dans le bus. Mais il y a des fois où nous sommes débordés. Il y a des fois où mes agents sont menacés par des clients, parce qu'ils veulent faire respecter les mesures barrières. C'est à ce niveau-là que nous avons besoin de services de l'ordre pour nous prêter main forte. Une fois de plus, avec ce souci-là, il faudra que le gouvernement intervienne davantage pour nous permettre de juguler la crise, de traverser la crise tout en maintenant Transco en vie.
Monsieur Tifti Pamba, directeur général de l'entreprise Transco, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Merci à Jean-Claude Siala qui avait mis à nom de ce journal coordonné par Alain Irung. Quant à moi, Pierrot Elamé, je vous retrouve à 19h pour un bulletin d'information. Mais vous pouvez retrouver l'ensemble de nos informations sur www.radiocapi.net.